Le journal de l'économie sur Radio Classique.
Bientôt 6h40, à la une de l'économie ce matin, le Covid et son cortège de mauvaises nouvelles sur la scène économique. Le rouge écarlate pour les comptes de l'assurance chômage. L'Unédic voit sa dette et son déficit exploser. Oui, baisse des recettes, hausse des dépenses. Le cocktail est dur à avaler, Eric Mauban.
Oui, le déficit sera d'une ampleur inédite, prévient l'Unédic. 18,7 milliards d'euros à la fin de l'année. D'un côté, vous l'avez dit, les dépenses explosent pour plus de la moitié en raison de l'activité partielle. L'Unédic la finance pour un tiers, une facture de 10,2 milliards d'euros. Au chapitre recettes, les rentrées d'argent sont bien maigres car l'indemnité d'activité partielle n'est pas soumise à cotisation. Il faut aussi incriminer les reports de cotisation et puis la flambée du nombre d'allocations chômage. L'Unédic table pour la fin de l'année sur 420 000 indemnisations supplémentaires par rapport à la fin 2019. Elle va devoir emprunter pour assurer son financement. La dette pourrait s'élever fin 2021 à 65,2 milliards d'euros. C'est deux fois plus que prévu et c'est un niveau jamais atteint. Dans les prochaines semaines, des discussions débuteront entre le gouvernement et les partenaires sociaux pour tenter de mettre un terme à cette dérive financière.
Merci Eric Mauban. Alors menace ou pas sur l'Unédic, on y reviendra avec Étienne Lefebvre des Échos à 7h10 sur Radio Classique. À cause de la pandémie qui s'étend notamment en Europe, avec ça et là, vous le savez, couvre-feu, reconfinement, eh bien, l'activité économique est en recul. Du coup, la demande en pétrole fléchit. Aux États-Unis, la publication hier soir d'un rapport américain montrant une augmentation des stocks d'essence a fait plonger les cours de 3 à 4%. Le Brent, 41,73 $. Le WTI à New York, 40,03 $. Pas d'autant que la Libye, pendant ce temps-là, bien, recommence à produire largement. Sur les marchés, on commence à se lasser vraiment des longues discussions entre démocrates et républicains sur le nouveau plan de relance. Du coup, eh bien, le Dow Jones cède hier soir 0,3%, le Nasdaq, lui, 0,3% également. La Bourse de Paris était en net recul hier après-midi, moins 1,5%, 4853. Prise en étau entre le Covid et l'élection présidentielle américaine qui se tient dans deux semaines, très incertaine, vous le savez, en tout cas l'après-scrutin, le rouge ce matin à New York. Alors maintenant, est-ce qu'il faut tout noircir? Selon la Fed, dans son livre beige publié hier soir, les entreprises américaines sont dans l'ensemble optimistes sur les perspectives économiques portées par une l'entreprise qui a permis à certains secteurs de réembaucher, notamment dans l'industrie manufacturière. Mais évidemment, vous le savez, la situation diffère grandement d'un secteur d'activité à l'autre.
Le journal de l'économie sur Radio Classique.
Il est 6h42. Je l'évoquais il y a un instant, la liste noire des enseignes d'habillement mises à terre s'allonge. En pleine crise sanitaire, l'enseigne américaine Gap envisage de fermer avant juin 21 la totalité de ses magasins en Europe, soit presque 120 points de vente. Un coup dur évidemment pour les 500 salariés travaillant en France. Alors, comment Gap en est arrivé là? Écoutez, Franck Rosenthal, expert en marketing du commerce.
Vous avez beaucoup d'acteurs qui sont présents sur le marché français. Vous avez les acteurs qui viennent d'Internet, les pure players, qui sont présents aussi. Puis vous avez les nouveaux acteurs type Vinted, qui sont sur la seconde main et l'occasion. Donc il y a une bataille qui est féroce, en fait, sur le textile. Et donc c'est très, très difficile, sur un marché qui se contracte, en fait, d'émerger. Et particulièrement pour une enseigne comme Gap, qui est finalement mal positionnée ou qui n'est plus positionnée. Elle l'a été dans son passé. Ça parle plus aujourd'hui au public français. Et donc il y a un manque aussi d'attractivité. C'est-à-dire difficulté du marché plus manque d'attractivité de l'enseigne. Voilà, c'est les deux conjugués.
Oui, notez que je serai à 7h15 avec Christophe Cuvillier, le président de Unibail Rodamco Westfield, pris dans une fronde de certains de ses actionnaires. Il est à la tête de 88 centres commerciaux dans le monde. On viendra évidemment avec lui sur les grandes tendances du commerce en cette fin d'année. Alors, si à cause de la crise du Covid, notamment des enseignes souffrent, on l'a vu, certaines tirent leur épingle du jeu. C'est le cas de Fnac Darty qui, au troisième trimestre, affiche un chiffre d'affaires de 1,8 milliard en hausse de plus de 7% sur un an. Enrique Martinez, le PDG de Fnac.
C'est la combinaison d'un retour important de nos clients dans nos magasins après la période des confinements et une activité digitale très très dynamique et particulièrement dynamique en France. On a assisté à ce phénomène de l'équipement pour le télétravail et que ça a fait booster énormément l'activité sur les ordinateurs et tous les produits multimédia. Ça a continué pendant l'été et ça a continué surtout à la rentrée des classes. Et puis, on continue à avoir un intérêt des consommateurs d'équiper la maison avec d'appareils pour faire la cuisine parce qu'on sait qu'on va sortir un peu moins. Donc, on investit un peu plus sur l'art des vivres à la maison.
Enrique Martinez à la tête de Fnac Darty. Nestlé relève ses prévisions après un troisième trimestre meilleur qu'attendu. Les ventes du numéro 1 mondial de l'alimentation sont tirées par le café et les croquettes pour chiens et chats. En revanche, recul du chocolat et de l'eau en bouteille qui pâtissent des fermetures des restaurants. Consommation ou épargne, après plusieurs mois records provoqués par les suites de la pandémie, la collecte du livret A se normalise, retrouve un niveau proche de ce enregistré avant crise. En septembre, elle atteint 1,28 milliard d'euros contre 1 milliard en septembre 2019. Mais attention, tout peut encore changer avec le durcissement des mesures sanitaires. Une recrue de choc pour Airbnb, l'ancien designer vedette d'Apple, Johnny Ive. C'est lui qui, aux côtés de Steve Jobs, avait conçu la forme de l'iMac, de l'iPod, de l'iPhone. Il va travailler sur la présentation des prochains produits et services de la plateforme de location. Autre recrue dans un autre genre, ou plutôt transfert, Emmanuel Moulin, le directeur de cabinet de Bruno Le Maire, prend la tête du Trésor. Il va remplacer Odile Renaud-Bassot, qui présidera la Banque européenne pour la reconstruction et le développement, la BERD. Et quand on parle transfert, on songe à quoi ? Au foot, bien sûr. Je vous expliquais hier que le diffuseur mauvais payeur Mediapro n'avait pas versé à la Ligue de football l'argent prévu en octobre. Raúl Meireles, le fondateur du groupe, montré du doigt par les clubs, temporise pour tenter de trouver une solution d'ici 5 mois. Mais apparemment, il n'a pas les moyens de payer. Céline Cajoulis, vous l'avez rencontré, sa position, elle semble difficile à tenir.
Pendant toute la conférence de presse, Raúl Meireles a marché sur des œufs, tentant de rassurer, d'abord sur l'avenir de la chaîne Téléfoot, lancée cet été, et qui affiche seulement 600 000 abonnés, bien loin des 3,5 millions annoncés.
Je suis venu pour rassurer que Téléfoot va continuer. J'invite à tout le monde qui veut voir les foot de la Ligue 1 et la Ligue 2 à aller voir Téléfoot, parce qu'on va être là.
Mediapro espère aussi que la conciliation avec la Ligue de football professionnel va déboucher d'ici 4 à 5 mois sur une baisse des droits à payer et que cette solution ne lésera pas les clubs.
J'ai beaucoup de confiance qu'on va trouver des solutions raisonnables pour tout le monde. C'est pas qu'on cherche une solution pour nous, hein. Chercher une solution raisonnable pour tous.
Enfin, concernant les finances du groupe, la réponse est plus évasive. Mediapro a de l'argent, mais moins que les 172 millions d'euros de l'échéance d'octobre et espère qu'après la renégociation des droits, il y en aura assez en caisse pour les prochain versement.
Voilà, reportage de Céline Cajoulis. C'est noté qu'à 7h, Lucile Bréau reviendra sur les résultats de la Ligue des Champions hier soir, avec notamment la défaite de Marseille en Grèce. Radio Classique.